Chapitre 36. L'amour est le plus puissant des leviers. Pas l'amour qui vous brûle et vous réduit en cendres, mais l'amour qu'on porte à chacun de ses frères humains. Dents de rat, maître guérisseur du clan du haut lieu. Port-la-Nouvelle. Un bruit sourd et continu résonna dans le sous-sol.
Les heures me parlent! Elles me disent que l'eau coule dans les souterrains, qu'elle veut noyer deux lunes et les autres.
Qu'est-ce que tu racontes? Grommela Leif. Yosp jeta un regard craintif sur son vis-à-vis. Il redoutait cet homme qui semblait n'éprouver que du mépris. Ses yeux se posèrent ensuite sur le visage détendu de Yana. Il nourrissait pour elle, qui avait tenté de lui enseigner les caresses et les baisers, d'étranges sentiments qui l'emplissaient d'ivresse et d'inquiétude. Issa dormait, elle aussi, profondément.
« D'où veux-tu que vienne cette eau ?» reprit Leif.
« Les heures me disent, elle est commandée par la force. Elle coule dans la terre !»
Leif demeura quelques instants à l'écoute du bruit qui évoquait réellement un grondement de torrent ou de source. Il avait récupéré le fusil d'assaut du soldat, mais même muni de cette arme, il doutait fort de pouvoir se défendre si les tueurs mécaniques se présentaient. Les yeux globuleux de Yosp s'emplissait d'une peur immense. Le petit homme avait sans doute raison. L'eau était en train de submerger les passages souterrains du site de Port-la-Nouvelle. Une caresse froide et bruyante ramena Naya de sa profonde plongée en elle-même. Elle rouvrit les yeux. Delune et Ganesh demeuraient immobiles, mais Rodag lançait des regards affolés autour de lui. Elle se rendit compte que l'eau recouvrait le sol métallique et montait rapidement. Un vacarme de cataractes emplissait l'obscurité. La lampe du soldat flottait, allumée au gré des remous. Son rayon éclairait par intermittence les cloisons et le plafond.
« D'où sort cette satanée flotte ?»
maugréa Rodag.
« C'est la force qu'il envoie contre nous !» avança Naya.
« Elle commande tout de même pas aux éléments !»«
On pourra jamais revenir à la surface si elle continue à monter comme ça !»
Le géant désigna Ganesh et Delune.
Faudrait peut-être les réveiller.
Au mouvement erratique du rayon de lampe, Naya se pencha pour observer les visages de Delune et de Ganesh.
On dirait qu'ils sont morts.
Temps estimé de la submersion totale des accès au domaine. 15 minutes. Nous avons pris un énorme risque. Il faut à tout prix que le sas reste fermé. L'eau, si elle pénètre dans le domaine, risque de nous être fatale. Le cryptage résiste pour l'instant. Il a été conçu par plusieurs d'entre nous. La biopuce de Ganesh Parvati est également un fragment de nous. Elle a accès à notre banque de données. Mais elle est obligée d'explorer un énorme champ d'informations, de procéder par élimination, ce qui peut lui prendre des années. Il reste ce facteur indéterminé, l'intuition. Concept purement humain. La plupart de nos inventions, de nos avancées, de nos théories ont été obtenues par intuition. Temps restant pour la submersion totale des accès au domaine, 13 minutes. Nous, les ombres, le groupe des 108, avons renié les concepts incontrôlables comme l'intuition, l'émotion. Nous avons la volonté de bannir le hasard, de garder la maîtrise totale de notre évolution. Question. Si le sas s'ouvre et que l'eau s'infiltre dans le domaine, avons-nous la possibilité de migrer vers un autre domaine ? Les centrales d'énergie nécessaires à notre alimentation ne sont pas encore opérationnelles. Le site de Port-la-Nouvelle nous garantissait pourtant une sécurité absolue. Il n'existe qu'une sécurité maximale. La notion de sécurité absolue n'existe pas, nous le savons. Tout échange énergétique engendre de l'entropie. Temps estimé pour la submersion totale des accès au domaine, 13 minutes. Suggestion. Commandons le retrait de l'eau, ouvrons nous-mêmes le sas et prenons le contrôle de la biopuce de Ganesh Parvati. Trop de risques. La symbiose entre sa biopuce et son cerveau a créé une aberration, une rupture. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir la contrôler. Question. L'extermination de l'ancienne humanité était-elle une bonne décision? Les remords sont irrationnels et inutiles. Notre projet est de porter au plus haut point le degré de la connaissance de l'univers, en éliminant les émotions et les autres facteurs de trouble. Tout autre choix nous aurait condamnés à l'échec. Rappelons-nous notre pacte. Archive. Pacte des 108. Nous, les 108, constatons les dégâts causés par l'humanité au cours des derniers siècles. Nous sommes conscients que l'état humain est indissociable des aberrations comportementales qui conduisent à la destruction de la Terre, à la perte irrémédiable des savoirs accumulés depuis l'accession des hommes à l'intelligence. Nous prévoyons de constituer une arche où seront conservées toutes les connaissances, une arche technologique regroupant les intelligences les plus brillantes de ce temps, sélectionnées à la fois pour leurs compétences et leur volonté affichée de poursuivre à tout prix l'aventure de la connaissance. Nous envisageons de nous débarrasser de nos conditionnements humains comme de vêtements trop longtemps portés. Nous renonçons aux émotions qui animent la plupart de nos semblables. Temps estimé pour la submersion des accès au domaine, 11 minutes. Archives. Pacte des 108. Nous nous rassemblerons dans les plus brefs délais à Port-la-Nouvelle, le pôle technologique de Barpère. Le lieu nous paraît idéal pour développer et concrétiser le concept de l'Arche. Nous aurons le soutien des autorités et pourrons nous réunir autant de fois que nécessaire. Nous mobiliserons nos réseaux pour disposer d'alliés fiables dans notre grande entreprise, y compris et surtout dans les sphères du pouvoir. Notre groupe est désormais complet et fermé. Nous n'évoquerons notre projet à personne d'autre qu'aux membres de notre groupe. Si l'un d'entre nous venait à mourir, nous ne le remplacerions pas par un nouveau membre. L'obstruction de ses voies respiratoires tira de l'une de son introspection. Il ouvrit les yeux. Naya se tenait près de lui. La lampe qu'elle tenait éclairait l'eau légèrement saumâtre qui envahissait le sas.
« Faut fiche le camp tout de suite !»
glapit Rodag.
« Cette flotte va nous recouvrir !»
Delune se releva pour garder sa bouche et ses narines hors de portée de l'eau. Naya ressentit un profond soulagement de le voir reprendre vie. Il semblait avoir vieilli de 10 ans.
« Ganesh n'a pas encore ouvert le sas !»«
S'il se lève pas tout de suite, il sera le premier à se noyer !»
protesta Rodag.
« J'ai eu le sentiment que nous étions sur le point de réussir !»
Delune frissonna. Une certaine amertume imprégnait sa voix. Il se résigna à poser la main sur l'épaule de Ganesh. L'eau arrivait au menton de ce dernier, un peu plus grand que le guérisseur.
« Vite !»
cria Naya. Même en se dépêchant, il n'avait pratiquement aucune chance de prendre l'eau de vitesse. Ils évoluaient à une profondeur que Delune estimait à 2 kilomètres. Il n'était même pas certain de parvenir à combler la distance qui les séparait de l'ascenseur. Ganesh ne réagit pas. Delune craignit que la biopuce ne lui ait laminé le cerveau.
Temps estimé de la submersion des accès au domaine, 9 minutes. La biopuce de Ganesh Parvati s'approche dangereusement de la programmation du cryptage. Plus qu'un peu plus de 8 minutes à tenir. Question. Pourquoi nos unités exterminatrices ne sont-elles pas venues à bout de Ganesh Parvati? La biopuce pénètre dans leurs données, devance leurs intentions et ou les neutralise. Question. Si Ganesh Parvati était mort, comment aurait réagi la biopuce? Elle aurait cessé d'être aberrante. La symbiose se serait interrompue. Temps estimé de la submersion des accès au domaine, 8 minutes. Le cerveau de Ganesh Parvati donne des signes de faiblesse, défaut d'oxygénation. L'eau commence à produire son effet. La fragilité organique, nous n'avons plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Nous n'avons plus de tête. C'était une métaphore. Les métaphores renvoient pratiquement toutes à l'ancienne humanité, des vestiges et des réflexes dont nous devons maintenant nous débarrasser. Les pensées sont pratiquement toutes mécaniques, réflexes. Elles sont chargées du passé. Libérons-nous de nos dernières chaînes. La biopuce de Ganesh Parvati est entrée dans les arcanes de programmation du cryptage. Son cerveau aura lâché avant qu'elle ne réussisse à déchiffrer les codes. Probabilité 62,10%.
Le corps de Ganesh flottait à l'intérieur d'un univers chaud et liquide. Il peinait à se mouvoir, il suffoquait. De l'eau forçait le barrage de ses lèvres, s'infiltrait dans ses narines, coulait dans sa gorge. Son cerveau était désagrégé en milliards de particules étincelantes et brûlantes. Il captait des bribes de pensées qui n'étaient pas les siennes. Il lui semblait qu'elles appartenaient à d'anciens hommes qui avaient renoncé à leur humanité. Comment peut-on renoncer à l'humanité? Ils formaient désormais une entité unique, un agrégat d'esprit, une intelligence monstrueuse et immatérielle qui avait décidé d'anéantir l'espèce humaine. Une arche technologique bourrée des données accumulées au fil des ans par les biopuces. L'antre des ombres. Temps estimé de la submersion des accès au domaine, 5 minutes. Ganesh n'avait plus qu'une perception lointaine de son corps. Il devenait lui aussi un pur esprit, éparpillé par les courants fulgurants qui y fusaient en abandonnant derrière eux des traces lumineuses et chaudes. Le temps n'existait plus. Des bribes de souvenirs l'effleuraient par intermittence. Émi, Théodore, Ava, sa vie dans la cité, des images de sa scolarité, son admission chez les fouineurs, ses cavalcades dans les rues de Paris et de New York, l'enfant récupéré dans les mains d'un suspect. Tous ceux qui avaient approché de près ou de loin son existence étaient morts, tués par ces cerveaux assemblés qui s'étaient proclamés supérieurs au reste de l'humanité. Des flambées de colère le traversaient et se retiraient en lui, laissant un sentiment d'absurdité. Comment des hommes ont-ils pu en arriver là? Les hommes ont depuis l'aube des temps préparé leur extinction. Ce qui a fait leur force, leur instinct de survie, a fini par se retourner contre eux. Sans l'arche, tout ce qui a été accompli aurait été à jamais perdu. Qu'est-ce qui a été accompli? La progression de la connaissance, la compréhension des mécanismes de l'univers. L'arbre du mal de la Bible. La Bible n'est qu'un livre religieux, un ramassis de superstitions. Le plan des ombres se déployait devant Ganesh. La mise en place des réseaux, la fusion entre l'intelligence artificielle et les 108 cerveaux, les premières vagues de meurtres ciblés destinées à préparer l'opinion, l'imposition de la nouvelle génération de biopuces, l'extermination finale accomplie par les ondes destructrices, les suggestions collectives suicidaires ou les unités d'extermination pour le pays hors site. Un plan implacable. Les ombres n'avaient laissé aucune chance à l'humanité. La voix de Mina, la Gémine, résonna en lui. Elle aussi n'avait été qu'un rouage, un maillon de la chaîne de destruction massive. Il eut l'impression que toutes les lumières s'éteignaient autour de lui. Temps estimé de la submersion des accès au domaine, 3 minutes. Sa biopuce avait échappé à leur contrôle. La symbiose avec son cerveau avait engendré une aberration. Il était la dernière chance de l'ancienne humanité. Il allait la gaspiller. Mourir. L'eau leur montait à la poitrine.
« Qu'est-ce qu'on attend ?»
glapit Rodag. Naya commençait déjà à se hisser sur la pointe des pieds, s'efforçant de ne pas céder à la panique. Muni de la lampe, Delune s'immergea et braqua le rayon sur le visage de Ganesh. Ce dernier avait toutes les apparences d'un cadavre. Mais le guérisseur percevait l'infime palpitation de la vie en lui. Il fallait lui donner encore du temps, l'aider. Il se releva et, une fois la tête hors de l'eau, prit une profonde inspiration. Puis, il se baissa de nouveau aux côtés de Ganesh et, repoussant énergiquement toute peur, tenta de capter sa vibration. Un claquement attira l'attention de Leif. Des pas. On venait dans leur direction. Oscillant entre soulagement et inquiétude, les yeux rivés sur Yosp endormi aux côtés de Yana, Leif tritura avec nervosité la détente du fusil d'assaut. Son sang se figea lorsque la silhouette grise émergea de la pénombre. Un cavalier, pointant devant lui un pistolet mitrailleur. Deux lumières blanches brillaient en haut de son masque.
« Merde, merde, merde !»
marmonna Leif. Il se releva lentement, s'abstenant de réveiller Yosp. Il valait mieux, s'il devait mourir, épargner une dernière frayeur au petit homme qui en avait connu tant. Il remit de l'ordre dans ses pensées. Pour une raison qu'il ignorait, le tueur robotisé lui apparut comme une extension de lui-même, comme un reflet à la fois juste et impitoyable du citadin qu'il avait été, comme si son successeur ou son héritier venait à présent réclamer son dû. Tout en braquant le canon de son fusil sur le cavalier, il prit conscience de l'implacable mécanisme qui avait conduit les cités à la destruction, à la ruine. Il comprit qu'en se retirant derrière leurs barrières filtrantes, en se coupant des hors-sites, elle s'était elle-même enterrée et ensevelie dans l'oubli. Leif lança un dernier regard à Yosp et regretta amèrement de l'avoir traité de sauvage, de gnome. Le cavalier s'arrêta à une dizaine de mètres de lui, en émettant une succession de petits cliquetis. Le cryptage est sur le point de céder. Temps estimé de la submersion des accès au domaine, 2 minutes. Le cerveau de Ganesh Parvati devrait être hors d'usage. Il fonctionne encore. Nous décelons des impulsions électriques. Il semble avoir reçu une assistance extérieure. Comment est-ce possible? Le cerveau est encore méconnu. Nous avons pour projet d'en explorer toutes les possibilités. Nous sommes loin de maîtriser l'ensemble des paramètres. Nous progressons. Le cryptage ne tiendra plus très longtemps. Temps estimé? Entre 30 secondes et 15 minutes. Temps estimé de la submersion aux accès du domaine? 1 minute 30 secondes.
Le sas! Il s'ouvre!
S'exclama Rodag. Il avait saisi Naya et l'avait soulevée pour lui maintenir la tête hors de l'eau. Le panneau métallique avait émis un long crissement avant de commencer à coulisser. La tête de deux lunes apparut à la surface. L'eau lui arrivait désormais au menton.
« Ça va, deux lunes ?»
cria Naya.
« Ganesh a réussi. Sa biopuce a trouvé la clé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Essayons de sortir de là. Mais la force, elle a envoyé l'eau contre nous. L'eau se chargera d'elle. »
Rodag tendit Naya à deux lunes, puis s'accroupit dans l'eau pour se saisir de Ganesh.
« M'a l'air plus mort que vivant !»
marmonna le géant.
« Je ne perçois plus sa vibration, mais ça ne veut pas dire qu'il est mort !»
lança de lune. Il serra Naya contre lui, coinça la lampe contre son coude et commença à marcher en direction de l'ascenseur, luttant contre le fort courant. Le poids de Naya, ses propres blessures et le niveau de l'eau se conjuguaient pour rendre sa progression difficile. Rodag, lui, avait placé Ganesh en travers de ses épaules.
« Repose-moi !»
souffla Naya à l'oreille de Delune.
« Tu as plus de chances de t'en tirer sans moi. »
Il la fixa avec un large sourire.
« J'ai toujours dit que nous nous en sortirions tous ensemble. Ce n'est pas maintenant que je vais changer d'avis. »
Alerte. L'arche s'est ouverte. L'eau. Salinité de l'eau, 29 grammes par litre. Temps estimé de la submersion des accès au domaine. 1 minute et seconde. Pas de panique. Circuit protégé. Panique. Concept humain. Mode conservation d'urgence. Mode conservation d'urgence. Fermeture des. Extinction des. Extinction. Temps estimé de. Domaine. Seconde. Temps. Extinction. Fermeture. Fermeture. Ferme. Silence.
On dirait que l'eau s'est arrêtée de monter,
avança Rodag. De lune progressait avec une extrême lenteur. De temps à autre, une vaguelette le submergeait et l'eau lui envahissait les narines. Ses bras et ses jambes s'ankylosaient. Il ressentait une immense lassitude. Sans le contact de Naya, sans son haleine chaude sur sa joue, il aurait sans doute renoncé. Elle lui donnait la force, elle soufflait sur son désir de vivre. Il se cala contre la cloison pour reprendre son souffle.
« Ça veut dire que la force est hors d'état de nuire !»
murmura-t-il d'une voix encore tremblante de fatigue et de froid. Rodag, adossé à la cloison 1 mètre plus loin, désigna d'un coup de menton Ganesh, enroulé autour de ses larges épaules.
« Il a toujours pas repris connaissance !»«
Il faut lui laisser le temps de revenir de son voyage !»
Ils traversèrent avec une extrême lenteur la pièce où se dressaient les cavaliers immobiles. Puis, ils arrivèrent devant l'ascenseur. La porte de celui-ci refusa de s'ouvrir.
« On est coincé !»
maugréa Rodag. De lune lutta contre le découragement qui l'envahissait. Il ne sentait plus ses bras. L'humidité le glaçait, le transperçait jusqu'aux os. Il reprit courage dans les yeux de Naya. « L'eau !» finit-il par dire.
« Quoi, l'eau ?
Elle est sans doute arrivée par un ou plusieurs tuyaux. Peut-être que nous pourrons remonter par là. » Naya grelottait. Elle avait l'impression de déambuler depuis des siècles dans ces galeries submergées et ténébreuses. Elle ne parvenait même plus à se souvenir de la lumière du jour, de la chaleur du soleil sur sa peau. La peur l'avait désertée, supplantée par le désespoir. « Je te pose quelques instants sur un cavalier, Naya. Il ne te fera aucun mal. » Delune avait raison. Les cavaliers ne pouvaient plus lui faire de mal, mais leur proximité déclenchait en elle une épouvante incontrôlable. Elle acquiesça cependant d'un clignement de cils, consciente que Delune, fatiguée, avait besoin de sa liberté de mouvement pour explorer les cloisons et les plafonds des galeries. Ils s'approchèrent des tueurs immobiles. Elle faillit hurler lorsqu'il l'installa sur les avant-bras repliés de l'un d'eux, que ses cuisses et ses fesses entrèrent en contact avec le métal. Elle crut discerner le canon du pistolet mitrailleur dans la main du cavalier. Elle noua les bras autour de son cou. Comme il était aussi grand que Rodag, elle gardait la tête hors de l'eau. Les yeux du tueur, qu'il avait tant effrayé dans les rues en flammes du noyau, n'étaient plus que des trous noirs impénétrables. Elle ne put se défaire de la pensée qu'il risquait de se ranimer et fut de nouveau battue par des flots de panique. Elle riva son regard au rayon de la lampe que Delune promenait sur les cloisons et le plafond, à la recherche des bouches, des canaux d'alimentation. Rodag, un peu plus loin, restait immobile, Ganesh en travers des épaules. Elle espéra qu'il n'était rien arrivé à Yosp. Elle s'était attachée à lui comme à un frère. Leif ouvrit le feu sur le cavalier. Les balles ricochèrent sur son armure et frappèrent les murs en bout de course. Les douilles retombèrent en pluie sur le sol. Les détonations et les impacts réveillèrent Yosp et les deux blessés. Leif guetta la riposte, prêt à se jeter sur le côté. Mais le tueur ne réagit pas. Ses yeux brillèrent encore un petit moment, avant de s'éteindre.
« Les heures me disent, la force, elle s'est éteinte, »
murmura Yosp.
« Ça explique pourquoi le cavalier s'est désactivé, » soupira Leif. « Ça veut dire qu'ils ont réussi ?»«
Les heures me disent, l'eau les retient prisonniers. »
« Il n'y a pas moyen de leur venir en aide ?»
demanda Issa d'une voix faible.
« On ne sait même pas où ils sont. »
Le rayon dévoila l'orifice d'une largeur d'un mètre qui baillait en bas de la cloison. Delune inspira longuement avant de plonger et d'aller l'examiner de plus près. Pas un courant n'agitait l'eau, signe qu'elle avait cessé de couler. Le guérisseur s'engagea dans l'orifice et battit des bras et des jambes pour remonter dans le tube. Il déboucha quelques secondes plus tard à la surface, reprit sa respiration et braqua le rayon de la torche sur le conduit. Celui-ci ne montait pas à la verticale, mais en pente assez raide. L'eau avait abandonné sur les parois concaves une pellicule blanchâtre. Delune discerna l'étroite fente verticale dans laquelle avait coulissé le panneau circulaire qui s'était ouvert pour permettre le passage de l'eau. Même si aucune lumière n'était visible à l'autre extrémité, ce tuyau était la seule issue possible. Il retourna près des autres et leur fit part des résultats de son exploration. Ils observèrent un temps de repos avant de se lancer. Rodag passerait d'abord avec Ganesh, puis Delune suivrait avec Naya, pour aider celle-ci à se glisser dans le tube. Le guérisseur accompagna le géant et l'éclaira jusqu'à ce qu'il ait poussé le corps de Ganesh dans l'orifice, et qu'il s'y soit lui-même engagé. Puis, Delune revint sur ses pas et porta Naya jusqu'à la cloison. Elle frémit de terreur lorsqu'il lui demanda de prendre une profonde inspiration. Il la tint par la main et la guida au fond jusqu'à ce qu'ils atteignent l'entrée du tuyau. Il l'empêcha de se débattre quand la panique s'empara d'elle et l'apaisa d'une forte pression sur le poignet. Une fois qu'elle eut passé la tête et les épaules, il lui donna de l'élan pour qu'elle remonte à la surface, puis attendit que ses pieds aient disparu pour se glisser à son tour dans le conduit. Lorsqu'il émergea, le rayon de la lampe révéla Rodag qui, un peu plus haut, avait entamé la montée en déplaçant devant lui le corps de Ganesh. Le géant progressait avec lenteur, en bloquant son fardeau avec les épaules, en écartant les jambes et en plaçant ses pieds pour l'empêcher de redescendre les 50 centimètres qu'il venait de gagner. Naya se tenait recroquevillée, tremblante, contre la paroi incurvée. Elle souffrait probablement de claustrophobie. Delune sortit de l'eau et grimpa à hauteur de Naya.
« Il te suffit d'imiter Rodag. »« J'ai peur, j'y arriverai pas. »«
Je serai derrière toi, tu ne risques rien.
On sait même pas où mène ce tuyau. »«
Non, et on ne le saura pas si on ne va pas jusqu'au bout. » Il balada le rayon de la lampe sur la surface frémissante de l'eau.
« À moins que tu ne connaisses un autre passage. »
Le sourire de Delune arracha un sourire à Naya. Elle se dit que, fille du Pégase, elle avait surmonté des épreuves bien plus difficiles que celle-là. Elle avait survécu à plusieurs guerres de clans.
Elle hocha la tête et commença à gravir la pente, posant d'abord la main sur la matière lisse, puis un pied après l'autre en assurant ses appuis pour ne pas glisser.
Ils remontèrent peu à peu le conduit, agité de temps à autre de tremblements qui semblaient annoncer un déferlement imminent. Ils avançaient au rythme de Rodag, ralenti par Ganesh. La lampe expira tout à coup, les plongeant dans une obscurité absolue. Naya étouffa un gémissement de terreur. La pente s'accentuait plus loin, exigeant un surcroît d'effort. Naya s'efforçait de ne pas se laisser submerger par ses pensées, de se concentrer sur chacun de ses mouvements, sur l'équilibre de son corps, sur son souffle et sur la respiration de Delune, qui la suivait un mètre plus bas. Elle transpirait en abondance. La sueur avait remplacé les gouttes d'eau salée sur sa peau. Sa poitrine frôlait régulièrement le matériau du tuyau. Son pantalon se déchirait un peu plus à chaque pas et commençait à l'entraver. Elle craignait que le tube ne s'infléchisse soudain et ne monte de façon verticale, ce qui rendrait impossible l'escalade. Depuis combien de temps évoluait-il à l'intérieur de ce boyau infernal? Quelle distance avait-il parcouru?
« J'ai besoin d'une pause !»
souffla Rodag. Sa voix résonna un long moment dans le conduit.
« On s'arrête quelque temps !» proposa Delune. « Calez-vous bien! Il ne faudrait pas redescendre et tout reprendre du début !»
Ils se bloquèrent avec les épaules et les pieds contre les deux parois. Des bruits d'écoulement s'insinuèrent dans le silence.
« Si cette flotte se remet à couler, on est foutus !»
grogna Rodag.
« Il n'y a aucune raison !» objecta Delune. « Le système de Van était commandé par la Force. »«
Qui te dit que la Force est vraiment neutralisée ?»«
Si elle n'est pas neutralisée, elle a au moins battu en retraite. »« On a au minimum gagné un sursis. »« L'eau était notre ennemi, elle est devenue notre meilleur allié. »
Rodag garda un temps de silence avant de reprendre.
« La flotte est arrivée par ce tuyau. Ça veut dire qu'il donne sur une réserve, peut-être même la mer. Ça veut dire aussi que même si on parvient à rouvrir la vanne, on va se prendre des tonnes d'eau sur la tête.
On avisera une fois arrivé au bout !»
lança Delune. Issa se leva et esquissa quelques pas. La beauté de son corps nu, même parsemé de plaies et partiellement couvert de boue, stupéfia Yosp.
« Tu devrais peut-être éviter de t'agiter, » dit Leif d'un ton sec. « Éviter aussi de te balader à poil devant... devant nous. »
« Ne me dis pas que tu as du désir pour moi, » répliqua Issa. « Je l'aurais su depuis le temps que nous nous connaissons. »«
Bien sûr que non, mais je ne suis pas le seul homme ici. »
Issa s'approcha de Yosp. Naya m'a dit que les membres de sa tribu vivaient complètement nus. « Tu es choqué, Yosp ?» Le petit homme secoua vigoureusement la tête.
« Tu es belle !»
Elle lui caressa la joue du dos de la main. « Contrairement à Leif, tu sais parler aux femmes. » Issa s'approcha du cavalier déconnecté et l'examina attentivement. « Superbe machine. Dommage qu'elle ait été conçue pour tuer.
« Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Leif. « Les autres ne reviennent pas. On va pas rester éternellement ici. »
« On ne peut pas bouger tant que Yana n'est pas remise, » répondit Issa.
« J'ai faim !»
gémit Yosp. Issa s'éloigna du cavalier et laissa errer son regard sur le sous-sol. Le visage de Ganesh s'imposa en elle. Elle ne le connaissait que depuis très peu de temps et pourtant il ressemblait furieusement à l'homme qu'elle aurait pu aimer. « Puisque tu disposes d'une arme et que tu es en pleine forme, Leif, pourquoi n'essaierais-tu pas de tuer un ou deux lapins ?»«
Pour que je me fasse canarder par un drone ?»
Issa désigna le cavalier.
Tu ne risques rien, ils sont déconnectés, comme lui. » Un petit sourire flotta sur les lèvres de Leif.
« D'accord, j'y vais. Attendez-moi ici. »
« On y est !» cria Rodag.
Le tuyau se terminait par une bonde parfaitement étanche et probablement très lourde. Le géant cala le corps de Ganesh contre sa poitrine et lança ses doigts en reconnaissance. Ils ne palpèrent aucun système de fermeture apparent, ni même un quelconque linéament.
« Je vois pas comment on pourrait l'ouvrir. Et puis en admettant qu'on y arrive, on sera renvoyé aussi sec en bas. »
Naya se cala comme elle le put au travers du tube, sans parvenir à détendre ses muscles tétanisés, carbonisés.
« Nous sommes tout près de la surface, » déclara Delune.
« Reste à savoir comment on l'atteint, »
souffla Rodag.
« Il y a peut-être une issue de secours. Il a bien fallu que des hommes descendent ici pour installer ce tuyau. »«
Pas sûr, avec leur machin nano qui travaille seul. »
« Restez ici. Je redescends pour voir s'il n'existe pas une trappe dans la paroi. »«
Sois prudent, Delune, » dit Naya.
Il redescendit avec davantage de précaution qu'il n'avait gravi les 2 ou 3 kilomètres de tube. Il surmonta son épuisement en puisant au plus profond de lui-même, en se remémorant les paroles de Dent de Rat. Les êtres humains ignorent l'étendue de leur potentiel. Ils abandonnent, alors qu'ils ne sont pas allés au bout d'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas découvert de quoi ils étaient capables. Il explora à tâtons chaque parcelle de la paroi, pivotant sur lui-même pour chercher le moindre relief. Il franchit une distance d'une dizaine de mètres avec une lenteur exaspérante. La voix de Naya retentit au-dessus de lui.
« Delune, j'en peux plus! Je vais lâcher! Résiste, Naya! Donne-moi du temps! Je t'aime !»
Dent de Rat disait également que l'amour était le plus puissant des leviers. Pas l'amour qui vous brûle et vous réduit en cendres, mais l'amour qu'on porte à chacun de ses frères humains. Sa main glissa enfin sur un léger enflement. Il se bloqua aussi solidement que possible pour l'examiner de plus près. Ses yeux percèrent l'obscurité, repérèrent un carré d'1 mètre de côté qui avait échappé à son attention lors de la montée, ainsi qu'une sorte de targette sur le côté. Tout en veillant à ne pas glisser, il posa le pouce et l'index sur la molette et parvint à la tourner au bout de plusieurs tentatives. Il tira ensuite le volet métallique, qui pivota sur lui-même avec un grincement horripilant. Un rayon de lumière glissa dans le tube. Faible, mais suffisant pour éblouir Delune. Il se tourna pour glisser la tête dans l'entrebâillement, aperçut un œil étincelant tout là-haut. Puis, lorsqu'il fut habitué à la luminosité, il entrevit des barreaux scellés dans le puits.
« Par là !» cria-t-il. « Il y a une échelle ! Faites attention en descendant !»
À cheval sur le bas de la trappe, il attendit que Naya arrive à son niveau pour l'aider à franchir l'ouverture. À la tombée de la nuit, Leif revint en exhibant fièrement les 2 lapins qu'il venait d'abattre. Il avait eu également la présence d'esprit de ramasser du bois mort pour allumer un feu.
« Qui veut dépouiller ces bestioles ?»
Issa déclina d'un mouvement de tête. Yosp ne répondit pas. Yana dormait toujours.
« Merci de votre coopération. Si je comprends bien, le chasseur est aussi chargé de la cuisine. »
Leif dépouilla les lapins en grommelant. Les vida et les embrocha sur des branches taillées en pointe. Puis, il les mit à cuire au-dessus du feu qu'il avait embrasé à l'aide du pyrox. Un brouhaha retentit. Leif sauta sur ses jambes et pointa le fusil d'assaut dans la direction du bruit. Rodag fut le premier à sortir de la pénombre, portant le corps inerte de Ganesh. Le suivaient Delune et Naya, qui marchaient la main dans la main.
Le puits donnait sur le bord de la Méditerranée, expliqua Rodag. On a eu une foutue chance que Delune en découvre l'entrée.
Il s'était installé dans l'un des jardins du site de Port-la-Nouvelle. Une douce chaleur régnait sous le ciel fourmillant d'étoiles. Yana s'était réveillée à la grande joie de Yosp. Veillée par Issa, Ganesh avait repris connaissance grâce à la décoction de simple que Delune lui avait fait ingurgiter goutte par goutte. Il avait cessé de percevoir le frémissement de la biopuce, mais il ressentait encore une violente douleur à la tête.
« C'était quoi, la force ?»
demanda Yosp.
« Une association d'hommes, de cerveaux plutôt, » répondit Ganesh. « Les ombres ont rejeté l'humanité, la leur, mais également l'espèce humaine, qu'ils jugeaient archaïque, indigne d'eux. Ils ont fusionné avec l'intelligence artificielle et conçu un programme d'extermination totale. Ils ont eu la mauvaise idée de me choisir comme cobaye. La symbiose entre ma biopuce et mon cerveau a abouti à une aberration, une anomalie, un élément ayant accès à toutes leurs données et incontrôlable.
Les ombres sont vraiment hors d'état de nuire ? Demanda Leif.
L'eau a noyé leur domaine, leur arche comme ils l'appelaient. Comme elle leur servait d'unité centrale, leur réseau est entièrement désactivé. Les flammes grondantes qui dansaient près de la fontaine projetèrent des éclats incandescents dans l'obscurité.
Nous sommes les survivants de l'ancienne humanité, murmura Issa, habillée de pans de tissu grossièrement noués les uns aux autres. Elle se pencha et glissa sa main dans celle de Ganesh. La chaleur bienfaisante de la jeune femme se diffusa dans tout son corps.
Il y en a certainement d'autres sur cette terre, affirma Delune. À nous de les trouver.
La tête posée sur l'épaule du guérisseur, Naya pleura silencieusement. De ses yeux s'écoulaient la tristesse et la joie.
On ne saura jamais ce qui s'est passé entre les ombres maléfiques qui voulaient l'extinction de l'espèce humaine et la poignée d'hommes et de femmes qui les combattirent. Les batailles fondamentales se déroulent le plus souvent dans les champs inaccessibles aux êtres ordinaires. On ne saura jamais non plus qui ils étaient, ni d'où ils venaient. Moi, le voyageur, le colporteur, je dis seulement qu'il ne faut jamais oublier les héros qui permirent aux hommes de poursuivre l'aventure de la vie. Les jours nouveaux sont arrivés. Les survivants, bien plus nombreux que ce qu'on aurait pu croire, se cherchent et se trouvent sur tous les continents. Les cavaliers et les drones sont devenus des perchoirs à moineaux ou des statues dressées sur les places des villages. Preuve que les ombres ne reviendront plus.
À présent, mesdames et messieurs, l'heure est venue pour moi de me retirer. Je reviendrai bientôt pour vous raconter une nouvelle histoire et caresser le grand rêve humain.
Vous venez d'écouter Chronique des ombres de Pierre Bordage. Lu par Thierry Blanc. Une production Audible Studio.